Bonsoir tout le monde et bienvenue au Soccer de l'Impact en direct de Orlando City ce soir, où l'Impact de Montréal rend justement visite au Orlando City SC. Mon nom c'est Jérémy Filosa, merci d'être en notre compagnie, nous y serons jusqu'à 21h45 ce soir. Ensuite de cela, on se dirige vers le Gallet Box de Eye of the Tiger Management du côté du Casino de Montréal avec Jacques Thériault et toute l'équipe. À mes côtés, en remplacement cette fois-ci d'Arcadio Marcuzzi qui est toujours à la Coupe du Monde bien sûr, on a un ancien joueur de l'Impact de Montréal, Antonio Ribeiro. Salut Antonio, comment ça va?
Bonsoir Jérémy, ça va très bien, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être notre analyste pour ce match. Très gentil de ta part. Antonio, t'as passé 10 saisons avec l'Impact.
Oui.
Avec l'organisation, t'as joué avec l'équipe nationale, bien sûr. On peut te retrouver aussi chez l'équipe du Delta. T'es le directeur technique du côté de Sainte-Dorothée, donc t'es un gars extrêmement occupé. On peut aussi t'entendre sur le podcast sportif Droit au but. Tu parles souvent de l'Impact de Montréal.
Oui.
Donc, parlons un petit peu de ce que tu fais au quotidien présentement, là, maintenant que t'es retraité officiellement de la MLS.
En fait, depuis que j'ai arrêté, j'ai toujours resté dans le milieu du soccer, impliqué surtout auprès des jeunes. Donc, j'organise des événements, exemple pour placer les meilleurs joueurs au Québec, autant garçons que filles, pour des universités américaines ou même les universités à Montréal et Cégep aussi. Je suis directeur technique du club Delta, comme tu l'as mentionné tantôt, à Saint-Dorothée.
Oui.
Et puis, on fait des camps de soccer, on fait des séances privées, on reste impliqué. Écoute, je travaille avec Gavino pour la radio web.
Oui.
Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis ici avec vous, avec une belle température et espérons-le un bon match de soccer devant nous.
Oui, il fait chaud ce soir. Écoutez, cet après-midi, là, on disait, en tout cas, lorsqu'on est arrivé au stade, ça fait à peu près une heure, on parlait là en degrés Fahrenheit, il faisait 94, mais température ressentie 106 degrés, donc très, très chaud dans la région d'Orlando. Là, on va peut-être prévoir une pause rafraîchissement à la première demi, on verra bien. Mais Antonio, tu as fait le tour de la MLS, tu as joué dans cette ligue-là, tu n'avais pas encore visité le marché d'Orlando. Qu'est-ce que tu penses des installations et de ce que ce club a été capable de réaliser en quelques années seulement depuis leur arrivée dans cette ligue-là? Vraiment, là, la ville d'Orlando vit au rythme de son équipe de soccer. C'est beau à voir.
Effectivement, hein? Oui, je suis très d'accord avec toi. J'étais surpris. Je m'attendais pas à voir une aussi belle organisation, ou même autant dans les rues. Tu marches, les rues sont fermées, c'est tout le monde pour Orlando. Tous les restaurants, tous les bars, tout est affiché avec des drapeaux d'Orlando. Donc,
c'est vrai.
C'est quelque chose qui est très bien fait, qui est très bien organisé. En fait, peut-être un petit modèle à suivre pour l'Impact de Montréal. Je crois que c'est un petit manque qui pourrait être le fun. Donc, on voit les fanatiques qui sont vraiment fanatiques. Et puis,
c'est
beau à voir. En fait, on aimerait ça que ça se reproduise à Montréal. Mais écoute, peut-être un jour, on va s'y rendre. Mais jusqu'à maintenant, ils ont fait un très bon travail ici. Puis quand on regarde le stade, exceptionnel. Il est très, très beau.
Oui, c'est vrai. Puis écoute, l'avantage pour Orlando, c'est que le stade est au centre-ville. Enfin, nous, on a marché de l'hôtel pour s'en venir jusqu'ici. Je le dis souvent aux gens qui nous écoutent, un des endroits les plus plaisants pour venir regarder l'Impact sur la route, c'est bien sûr à Orlando. Donc, nous, de l'hôtel, on a marché. Ça a pris quoi, une quinzaine de minutes? Tu l'as mentionné, les rues sont barricadées. Il y a plusieurs rues du centre-ville qui sont fermées et on voit le logo de l'équipe un peu partout. Donc, ils ont vraiment réussi ce coup de marketing-là. Et lorsque le Orlando City joue à domicile, vraiment tout le week-end là est dédié à l'équipe et tout cela. Donc c'est vraiment beau à voir. Orlando City cette année un petit peu plus de difficultés que dans les années passées. D'ailleurs, ils glissent au classement là. En fait, ils ont perdu leurs 6 derniers matchs. Ça fait mal là pour Orlando, étant donné que ils avaient quand même une certaine avance sur d'autres équipes. Mais là, cette avance là, elles font à vue d'œil, étant donné la dernière défaite au Stade Saputo, 3-0, on s'en souvient, contre l'Impact. Et bien là, Montréal n'est plus qu'à 4 points du Orlando City SC et d'une place en séries éliminatoires. Donc, dépendant des autres résultats dans la Ligue ce soir, si c'est des résultats favorables pour l'Impact, on pourrait se retrouver, imagine-toi, à un seul petit point d'une place en série. C'est quand même assez surprenant pour une équipe comme l'Impact qui a connu un début de saison aussi catastrophique, il faut le mentionner.
Oui, oui. Et puis, écoutez, c'est un match quand même assez surprenant parce qu'on parle d'une très bonne équipe. Quand on parle d'Orlando, l'Impact de Montréal, oui, ils ont eu la difficulté. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de joueurs non utilisés, quand même, d'après moi, très talentueux.
Oui.
Espérons que ça va changer. Mais bref, on arrive en plein milieu de la saison. On a besoin de tout le monde. Et puis, tranquillement, on commence à voir une petite chimie qui s'installe. Je crois que l'Impact de Montréal Montréal devrait encore une fois aller chercher une victoire ici. Ils l'ont fait à Montréal, ils ont juste à répéter un peu le même match, donc la même organisation, la même attaque, la même énergie. Comme tu l'as dit, ils sont à un point, donc c'est
ça devrait être une motivation là.
Après ce match-ci, s'ils gagnent, c'est sûr, ils sont à un point, c'est très motivant pour l'entraîneur et pour l'équipe.
Oui, maintenant, est-ce qu'on peut reproduire sur la route ce qu'on a fait à domicile? Ça, c'est une autre question. On a changé encore une fois le schéma tactique. On est revenu au 4-3-3, étant donné la blessure de Jason Vargas, qui est ton seul véritable joueur numéro 10. Donc, sans lui, au lieu de poursuivre dans le 4-2-3, c'est-à-dire le 4-2-3-1 qui avait donné quand même deux victoires à l'Impact lors de ces trois derniers matchs, à chaque fois qu'on s'est servi de ce schéma-là, ça a fonctionné, on a gagné. Moi, j'aurais aimé, Antonio, qu'on revienne aujourd'hui avec le 4-2-3-1, quitte à mettre quelqu'un d'autre en position de 10, que ce soit Alejandro Silva, même s'il n'a pas connu beaucoup de succès là, depuis son arrivée à Montréal, ou même Raheem Edwards, mais juste pour garder ce 4-2-3-1 qui semblait vraiment rendre tout le monde confortable. On a vu Evan Bush, sa cage, beaucoup moins menacée avec deux milieux défensifs devant les défenseurs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est logique de revenir au 4-3-3 étant donné l'absence de Vargas?
Ben moi, je d'après moi, c'est sûr qu'un 4-3-3, c'est un schéma qui est beaucoup plus offensif.
Oui.
Quand on parle du schéma 4-2-3-1, c'est un schéma qui est beaucoup plus défensif. Donc, on s'organise d'avoir au moins 5 gars derrière le ballon au besoin pour défendre.
Oui.
Et les autres s'occupent de l'attaque. Ce qui est bien, par contre, ici, dans le schéma qu'ils vont jouer ce soir à 4-3-3, ça va en prendre des replis défensifs. Tyder, il va falloir qu'il revienne. Il faut pas laisser Piet tout seul, parce que si Piet est tout seul, il va être retrouvé avec 4 défenseurs seulement. Et ça se pourrait très bien que Evan Bush serait probablement occupé.
Oui, puis écoute, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Et moi, c'est ça qui me déçoit, parce que étant donné que ça a bien fonctionné dans le 4-2-3-1, on a senti vraiment la surface de réparation un peu moins facile à pénétrer en 4-2-3-1. Donc, j'aurais aimé qu'on poursuive dans cet alignement-là. Bon, là, c'est parce que là, le problème, c'est que si Vargas, ça traîne, mettons qu'il rate 3-4 matchs, on va faire quoi? On va continuer à jouer dans une formation qui ne sourit pas à l'équipe, un 4-3-3, juste parce qu'on a un joueur de blessé? Pour moi, ça fait pas beaucoup de sens. J'aurais aimé qu'on garde la cohésion, qu'on place quelqu'un d'autre dans cette position-là, même s'il y a personne d'idéal pour la jouer, cette position-là, mais au moins garder un schéma tactique qui convient à tout le monde.
Oui, puis,
que penses,
oui, mais aussi, Rémi, comme entraîneur, c'est un entraîneur qui est quand même difficile à suivre, hein, quand on regarde ses schémas, et puis match après match. Donc, même pour les joueurs, je parle de mon expérience personnelle, quand un entraîneur qui change constamment de schéma de jeu,
oui,
ça peut créer à la confusion, parce que tu t'habitues, ça va bien, et là tu joues un autre match, et là on change la formation,
exact.
Donc regarde, on regarde ici là comme juste la formation rapidement. Right Alley, que c'est un gaucher qui joue défenseur droit.
Oui.
Donc est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce que Rémi fait des fois?
On va essayer d'expliquer. Là, on a sur le banc deux défenseurs droitiers qui normalement jouent dans le couloir, c'est-à-dire Chris Duval et Michael Petrasso. On va dire pour Petrasso qu'on comprend, parce qu'il revient de blessure et peut-être qu'on se dit qu'il est peut-être pas prêt tout de suite.
Je suis bien d'accord.
À obtenir un départ. Donc ça, c'est logique. Il n'y a pas de problème. Petrasso est sur le banc. Mais Chris Duval, c'est un droitier naturel. On l'écarte de la formation, on le laisse sur le banc et on met à sa place un gars comme Jukka Raitala qui a été quand même fiable, honnête dans son travail depuis son arrivée avec l'Impact, mais c'est un gaucher. Alors, quel genre de message s'envoie à Chris Duval? Est-ce que ça veut dire que...
Je sais pas, c'est pas un très bon message. En fait, c'est sûr que si l'entraîneur a pris le temps de l'expliquer, écoute, voici dans quoi je m'aligne pour le prochain match à Orlando, voici ton rôle, est-ce qu'il va le faire entrer plus tard pour le permettre de le faire monter plus sur comme le défenseur qui apparaît en surprise à l'attaque. Donc, est-ce que c'est ça? Duval, c'est pas mal son jeu, il est très impliqué à l'attaque. Est-ce que c'est une tactique qui veut peut-être mettre ça de côté puis se dire, bon, on va sacrifier un gaucher à droite, puis tout dépendamment comment le match va aller, je vais l'introduire, donc à suivre.
Écoute, c'est certain que si à un moment donné dans le match, on passe dans une formation, je sais pas, moins 5-3-2, ben écoute, dans ce cas-là, Raitala rentre un peu aux côtés des défenseurs centraux. On peut refaire entrer Chris Duval. Là, on joue à 5 derrière. Dépendant si l'Impact prend les devants et puis décide de
fermer le jeu, oui.
Exactement. Donc, on verra si jamais on se rend là. Donc, on vient de parler de Michael Petrasso qui a raté quand même plusieurs matchs. Un membre de l'équipe nationale canadienne. Il s'était blessé. Il revient au jeu. Donc, c'est difficile à... Pas difficile, mais lors du dernier match, on se souvient qu'il y avait très peu d'options en défensive chez l'Impact sur le banc. Là, il y a aussi le retour de Victor Cabrera. Et ça va mener à la discussion sur Marco Donadel. Mais Victor Cabrera effectue un retour au jeu. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, lui non plus. Il a connu des hauts et des bas. Récemment, on ne l'a pas nécessairement vu à cause de cette blessure. Mais bon, là, on a mis Donadel au ballottage et Cabrera revient. On s'entend avec, normalement, Rudy Camacho et Rod Fanny dans le 11 partant. Et s'ils peuvent jouer comme ils ont joué la semaine dernière, ben Cabrera devient un joueur de profondeur. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus?
Oui, très d'accord.
Parce que Cabrera, depuis son arrivée à Montréal, on fondait de beaux espoirs sur lui. Il a été très bon dans les premières années, mais à chaque année, la Ligue augmente et lui, son niveau n'augmente pas nécessairement.
Il ne suit pas la cadence. Oui.
Pas très fiable. Hein? Et on va dire la vérité, là, en début de saison, que ce soit aux côtés de Raitala ou même de Rod Fanny, on peut pas dire qu'il a connu énormément de succès. Mais, sais-tu quoi? Avoir un gars comme ça sur le banc, ça peut te donner un coup de pouce. T'sais, c'est mieux d'avoir Cabrera sur le banc qu'avoir les options qu'on avait avant où on était obligé de jouer avec un défenseur latéral en charnière centrale. Au moins, on a une certaine profondeur. On s'entend là-dessus.
Oui, on s'entend là-dessus. Et puis, il a fait des très beaux matchs, on le sait. Il est capable de jouer des bons matchs. C'est sûr que c'est un joueur que, d'après moi, ça prend un suivi quand même rapproché de l'entraîneur qui est constamment sur lui ou un capitaine sur le terrain qui l'encourage, qui le pousse à toujours bien performer. Parce que c'est un joueur qui peut faire un match exceptionnel. Et à la dernière minute du match, il va prendre une décision qu'il devrait pas... il va faire un tag, il va sortir une mauvaise passe ou quelque chose. Puis il va finalement coûter le match. C'est déjà arrivé. C'est déjà fait. Donc, c'est un joueur que, oui, c'est bon à l'avoir à l'impact, mais en même temps, ben c'est un joueur que ça prend les autres joueurs qui s'organisent, qui lui parlent, qui le communiquent, toujours très important sur le terrain, mais de s'assurer que tout le monde est au même niveau au point de vue de l'énergie, concentration et qu'il puisse faire un bon match.
La bonne nouvelle, c'est que au moins, maintenant, Rémi Garde regarde sur son banc et il a des options à toutes les positions. Tu sais, écoute, là, je me souviens, il y a quelques semaines, il n'y avait pas un seul défenseur sur le banc. Tu sais, t'as une blessure, là, t'as personne que tu peux amener sur le terrain. Là, au moins, bon, t'as trois défenseurs sur le banc, t'as deux milieux, t'as un attaquant, t'as quand même des options. Ouais. C'est pas parfait, mais c'est mieux que ce que c'était il y a quelques semaines.
Oui, puis de voir aussi, on parle maintenant un peu plus offensif, quand on voit Mancuso qui prend... qui commence le match aussi.
Oui.
Donc, un joueur qui a été un peu oublié par Rémi, qui maintenant le remet sur le jeu. Ce qu'il faut comprendre sur les joueurs qui ne jouent pas ou que l'entraîneur, bref, préfère moins par rapport à un autre, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que le joueur, pour que sa valeur reste haute dans le marché, il faut qu'il joue.
C'est sûr.
Donc, même si le joueur ne joue pas et qu'il, bon, il prend ça un peu personnel, ça lui donne rien. Il faut qu'il soit patient, il faut qu'il saisisse sa chance, parce que s'il veut renégocier son prochain contrat, ben, il faut qu'il joue sur le terrain. Donc, l'entraîneur doit donner la chance à ces joueurs-là, parce que, en même temps, c'est pour eux qu'ils vont le faire aussi, non seulement pour l'équipe, mais pour eux, il va falloir qu'ils fassent les pieds des mains, peu importe, pour aller chercher des buts, pour aller chercher des passes, pour aller chercher des résultats positifs, pour éventuellement, si le contrat finit et que Rémi lui dise, ben merci pour tout, ben au moins il y a eu des bons matchs, il s'est fait voir quand même en MLS, peut-être une autre équipe pourrait venir le chercher, donc c'est à son intérêt de jouer, puis en même temps, la saison est très longue, comme j'ai dit tantôt, l'entraîneur a besoin de tout le monde.
Juste pour donner un aperçu de l'alignement partant, et on va y revenir le plus tard, pardon, dans l'avant-match. Donc, Evan Bush devant le filet. On a les défenseurs dans un 4-3-3, là, comme je mentionnais tout à l'heure. Daniel Lovitz à gauche, Rudy Camacho au centre, aux côtés de Rod Fanny. Yuka Raitala, un gaucher qui va jouer à droite ce soir. Samuel Piet seul devant les défenseurs. Deux milieux à ses côtés, Saphir Taider à gauche, Ken Kralicki à droite. Et en avant, on a Nacho sur l'aile gauche, Alejandro Silva sur l'aile droite et Matteo Mancuso en pointe. On va faire une petite pause, Antonio. Au retour de ceci, je veux qu'on parle de Marco Donadel parce qu'il a été placé au ballottage. C'était un peu écrit dans le ciel, mais on va parler de cela, de son départ, de l'impact de Montréal et bon, l'arrivée de Victor Cabrera qui lui prend cette place internationale dans l'alignement de l'impact de Montréal. Vous écoutez l'avant-match du soccer de l'Impact en direct d'Orlando City. Bien sûr, le match va débuter dans approximativement 45 minutes. L'émission d'avant-match se poursuit dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour à Orlando City pour ce match de l'Impact contre le Orlando City SC. Jérémy Filosa, Antonio Ribeiro avec vous ce soir. Soit dit en passant, le début du match est prévu approximativement dans 45 minutes, mais on attend des orages ici dans la région et ce n'est pas impossible que le match soit... remis de quelques instants. Donc, ça se peut qu'on ait un délai au début du match. Donc, soyez bien avertis que c'est pas impossible. On verra comment ça nous mène, mais on voit des nuages quand même assez sombres ici sur le stade. Et avec le taux d'humidité que nous avons, ce serait pas surprenant qu'on ait de la pluie, des orages et tout cela. Donc, on va vous garder, bien sûr, très informés. Antonio, l'Impact s'est débarrassé. Bon, je voulais pas dire débarrassé parce que c'est pas un beau mot, mais a laissé partir Marco Donadel. Ils l'ont placé au ballottage. On peut pas dire que c'est une énorme surprise parce que Marco ne jouait plus beaucoup, malheureusement blessé souvent. On lui a offert une prolongation de contrat la saison dernière dans un genre de deal qu'on avait fait avec lui là où on avait diminué un peu son salaire pour permettre à d'autres joueurs d'être embauchés comme Samuel Piet. On manquait d'espace sous le plafond, donc on lui a offert une prolongation de contrat, mais on savait bien que peut-être que ça tiendrait pas la route jusqu'à la fin de l'année. C'est 325 000 $ qui disparaissent de la masse salariale, mais il faut continuer de payer le joueur jusqu'à la fin de l'année. Marco a quand même amené beaucoup en termes d'expérience, un ancien capitaine de la Fiorentina. Qu'est-ce que tu as pensé de son passage avec l'Impact de Montréal et comment ça se conclut maintenant?
Oui, c'était effectivement un très bon joueur, un joueur de centre, un joueur qui a amené beaucoup d'expérience à l'Impact de Montréal, en fait, beaucoup de profondeur.
Oui.
Je l'ai vu, j'ai surtout des bons souvenirs au moment où Drogba était présent avec lui.
Oui.
Je pense que c'était avec Mauro Biello comme entraîneur, et
oui,
l'équipe était vraiment exceptionnelle. C'était très beau à voir l'équipe sur le terrain. C'est une équipe qui avait une très bonne possession de balle,
oui,
qui était capable de construire le jeu. Et oui, ça prend des milieux de terrain qui ont de l'expérience. C'est sûr que c'était peut-être pas le plus jeune joueur, mais l'Impact aussi doit voir pour le futur. Donc oui, par respect, ils finissent de faire le paiement qu'ils doivent le faire aux joueurs. Je pense que la communication est toujours très importante auprès des joueurs et le club. Donc, de bien s'entendre, de voir les choses pour le futur et de respecter le passage du joueur dans le club. Lui souhaiter bonne chance et effectivement regarder vers l'avant. Donc, un joueur qui a apporté beaucoup du positif à l'Impact de Montréal. Mais là, l'Impact est arrivé à un moment où est-ce qu'ils doivent changer, ils doivent rajeunir l'équipe et on est rendu là.
Exactement, oui. Puis, la décision a été prise l'année passée de le ramener. Mais là, écoutez, on a besoin d'une place internationale pour faire revenir Victor Cabrera. Donc, soit qu'on fait l'acquisition d'une place internationale ou on se départit d'un joueur. Et donc, la décision est tombée cette semaine. Pour avoir parlé à Marco Donadel au camp d'entraînement, tu sais, il m'avait dit, si l'équipe ne veut plus de moi à un certain moment donné durant l'été, moi, je rentre à la maison avec la famille. Parce que lui, sa famille s'est installée ici. Les enfants allaient à l'école ici. Donc, ça a été une belle expérience de vie pour lui, pour ses enfants. Mais je pense que là, il va pouvoir inscrire ses enfants à l'école au mois de septembre en Italie, retourner et tout cela. Marco n'avait pas du tout le goût de se retrouver avec une autre équipe de la MLS, déménager encore une fois et tout cela. Donc, c'est le chant du cygne pour Marco Donadel qui va quitter pour l'Europe assurément cet été et tout cela. Je sais qu'il y a déjà des projets pour lui aussi poursuivre dans le monde du soccer en Italie et tout cela. Donc, il en est rendu là. Je pense qu'il veut retourner à Florence où il a connu beaucoup de succès, bien sûr. Peut-être continuer et poursuivre sa vie là-bas. Maintenant, on vient de nous confirmer, Antonio, que le match va être retardé d'un minimum de 20 minutes. Donc, j'espère que tu as de la jasette parce qu'il faut remplir
c'est
beaucoup de temps d'antenne.
C'est bien, on va en parler.
Oui, exactement. Donc, Marco Donadel quitte l'équipe. Samuel Piet joue un peu le rôle que jouait Marco Donadel. Peut-être un peu différent, les profils de joueurs, mais il joue la position que jouait Marco Donadel. On va entendre plus tard une entrevue que j'ai effectuée avec Samuel, mais... comment tu le vois se développer, Samuel? Je sais que l'Impact était très heureux de faire son acquisition l'année dernière, puis je pense que c'est un gars qui, à long terme, sait-on jamais, pourrait peut-être devenir même le capitaine de cette équipe-là.
Oui, il a l'air d'un garçon qui a une bonne tête sur les épaules, il a l'air d'un garçon brillant aussi. Par rapport soccer, par rapport au jeu, à son jeu, j'aime comment il joue. C'est pas quelqu'un qui perd des ballons, il
non.
est capable d'en récupérer aussi. Par contre, moi, mon point de vue... en tant qu'ancien joueur, si jamais j'avais joué avec, j'aurais préféré des fois qu'il joue un peu plus vers l'avant. C'est ce qui lui manque, de jouer un peu plus direct. Je me rappelle quand, dans le temps de Bernier, Patrice Bernier, quand il était là, à un moment donné, il avait joué un peu un rôle défensif. Et ce qui était le fun avec Bernier, c'est qu'il arrivait de sa position à trouver Di Vaio constamment dans des appels sur derrière la défensive.
Oui.
Donc, c'est pas mal la seule reproche que j'ai à lui reprocher par rapport à ça. Mais comme Donadel, lui, c'est un joueur qui, effectivement, jouait un peu plus vers l'avant, donc un peu plus complet, mais plus d'expérience,
en fait,
plus
Sam,
âgé.
Là, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup d'espace devant lui pour qu'il se porte en attaque, sans quoi... puis c'est peut-être pas nécessairement sa force non plus. Il va récupérer des ballons, puis s'il est capable de faire une bonne première passe, disons un gars comme Tyder ou compagnie, ensuite de ça, le jeu s'en va vers l'avant. Mais ce que je trouve un peu plate, moi, je pense que Samuel, à sa position, c'est un des très bons dans la Ligue, là, dans ce que lui fait, la récupération de ballon. J'y ai parlé ce matin, puis tu sais, il ne semble pas penser qu'il y a des chances de le voir au match des étoiles. C'est sûr que c'est chez l'Impact cette année, c'est un peu mince là, si on a à choisir des étoiles. Nacho, bien sûr, serait dans cette liste-là. Je sais pas si Evan Bush.
Evan Bush, d'après moi, oui.
Ben, écoute, Evan Bush, malgré le fait qu'il a donné beaucoup de buts, c'est 31 jusqu'à maintenant cette saison, il a quand même effectué 74 arrêts. C'est énorme. Il mène la ligue. En fait, je crois que le deuxième derrière lui en a 60, donc c'est 14 de plus que le deuxième. C'est lui qui a disputé le plus de minutes depuis le début de la saison. Est-ce que tu le trouves amélioré, Evan Bush, cette année sous Joel Batts?
Oui, je trouve qu'il joue très bien, comme tu dis. C'est sûr que quand t'as pas une très bonne défensive devant toi, ben c'est sûr que les tirs arrivent très rapidement, puis oui. Les attaquants de l'équipe adverse aussi. Mais je trouve que malgré tout, il est capable de sauver l'équipe et puis en sauve pas mal. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu te fais bombarder de tirs, il y en a sur 20 tirs, il y en a peut-être un deux qui passe, puis c'est ça qui va faire la différence.
T'as bien beau être bon là, mais à un moment donné,
ça prend une bonne défensive. Donc oui, Bush, un joueur très 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 professionnel. Il est à son affaire, il travaille fort, il veut le succès de l'équipe. Il cherche toujours à s'améliorer. Je le connais, j'ai joué personnellement aussi avec lui. Ouais. Donc c'est un joueur qui vraiment là, il est exceptionnel. Et puis ça me surprendrait pas qu'il soit invité avec l'équipe étoile en MLS.
Oui, ben en tout cas, moi, si j'avais à discuter avec Rémi Garde, c'est parce que souvent, quand on fait les sélections de joueurs étoiles, on parle aux entraîneurs pour savoir qui sont les plus méritants. Probablement qu'Evan Bush serait un de ces joueurs-là. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, là, ce serait pas une surprise si Piatti était le seul joueur choisi, étant donné le début de saison difficile de l'Impact, ça c'est certain. Mais en tout cas, on verra comment les choses vont se développer à ce niveau-là du côté de l'Impact. Rapidement, du côté du Orlando City SC, là, on va aller à la pause dans quelques instants. On va parler de la formation. Il joue une nouvelle formation complète. Là. En fait, c'est un 3-4-3. Une formation qui a été lancée par le nouvel entraîneur-chef de l'équipe parce que suite à la défaite de Orlando au Stade Saputo, il y a 10 jours, ils ont congédié leur entraîneur. Et donc maintenant, c'est Bobby Murphy qui était l'assistant entraîneur. C'est lui qui devient temporairement l'entraîneur-chef de l'équipe, et donc il a pris des décisions en conséquence parce que Orlando City, bon, c'était 6 défaites consécutives en MLS. Ce sont leurs plus difficiles moments dans leur histoire, leur courte histoire là comme franchise de soccer. Donc, on va revenir un peu sur le Orlando City SC tout à l'heure et les difficultés qu'ils ont depuis le début de la saison et savoir si l'Impact va pouvoir profiter de tout cela. Donc, il y aura le bulletin de nouvelles dans quelques instants qui va suivre après la pause. Et ensuite de cela, on aura une entrevue aussi avec Samuel Piette, une entrevue que j'ai eu la chance d'effectuer ce matin. Vous entendez peut-être que j'ai des petits problèmes de voix. L'air climatisé m'a fait effet là à l'hôtel. Donc, c'était encore pire ce matin lorsque j'ai effectué l'entrevue avec Samuel Piette. Donc, vous allez entendre ça tout à l'heure. Soyez pas trop surpris. Donc, petite pause, le bulletin de nouvelles et l'entrevue avec Samuel Piette. On vous rappelle que le match, malheureusement, va commencer à peu près 20 minutes en retard là, ce soir entre Orlando City et l'Impact de Montréal. On s'entretient avec le milieu de terrain de l'Impact de Montréal, Samuel Piette. Salut Sam, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien, merci. Écoute, ça fait un bon bout de temps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Comment se sont passés les derniers jours sans match avec la Coupe du Monde qui a débuté et tout ça? Je présume que c'est une ambiance complètement différente de ce qu'on a l'habitude de vivre dans le vestiaire, là.
Ouais, il y a une très bonne ambiance, surtout avec, comme tu dis, la Coupe du Monde. On suit les matchs, plusieurs nationalités, donc il y a certains gars qui regardent leur pays jouer. On est plus porté à regarder la télévision dans le vestiaire qu'à l'habitude. Là.
Mais dirais-tu que c'est une ambiance un peu plus légère, un peu plus avec 2 victoires en 3 matchs, puis là, en sachant qu'il n'y avait pas de match avant 10 jours et tout cela, vous avez fait plusieurs activités communautaires aussi. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une période un peu de repos mentalement pour vous autres?
Ouais, une grosse, comme tu dis, une grosse période de repos mental qui nous fait du bien avec 10 jours sans match. qui s'est terminé avec une victoire là, convaincante. Ouais. Ça fait du bien. Comme tu as dit, on a des activités communautaires, la marche pour la procure, en fait. L'atmosphère est très, très bonne. Mais c'est sûr que là, on a hâte de jouer. Là, c'est pas ça fait longtemps. Là.
Sam, quand tu es arrivé avec l'Impact au tout début, vous aviez vu, si je me souviens bien, une séquence de 4 matchs avec victoire. Ça avait été de beaux moments pour toi, pour l'Impact. Ensuite de ça, ça a été une période difficile. Et cette année, ça a recommencé encore avec une période difficile. Là, on semble voir peut-être un peu la lumière au bout du tunnel. 2 victoires en 3 matchs, une formation qui tient le coup. Est-ce que tu as le sentiment à l'intérieur de toi là, que ce club-là, avec toi, là, comme partant, comme titulaire, s'en va finalement dans la bonne direction?
Mais je pense qu'on a fait de très bonnes choses. T'sais, depuis le début de la saison, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, mais je pense qu'on a fait de bonnes choses, même si on n'a pas été capable d'accumuler les points. J'ai dit ça souvent en entrevue. C'est pas une année de transition, mais il y a beaucoup de changements, autant côté de staff que l'effectif. Fait que c'est de trouver des automatismes sur le terrain, puis en relation avec les joueurs qu'il faut trouver. Je pense que ça s'en vient, puis qu'on l'a de plus en plus. Je pense qu'on est dans un bon moment, puis il faut en profiter justement pour accumuler le plus de points possible.
Depuis que vous avez décidé de commencer à jouer le 4-2-3-1, en fait, vous l'avez joué 2 fois dans les 3 derniers matchs et vous avez obtenu des victoires à chaque fois. Je sais que tu avais dit quand même publiquement que toi, tu étais plus à l'aise seul devant les défenseurs, mais ça semble fonctionner avec Saphir à tes côtés. D'ailleurs, on voit Kevin Bush est beaucoup moins mis à l'épreuve. Il y a beaucoup moins de chances de marquer de qualité. Est-ce que c'est une formation qui, selon toi, est en train de devenir l'identité un peu de cette équipe-là?
Ben, je pense que la beauté de notre équipe, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer un système différent. Je pense qu'on utilise le 4-2-3-1 quand Jason est là. Vraiment, son poste, son meilleur poste, c'est milieu offensif seul devant, oui, devant les deux milieux, moi et Saphir, en fait. Là, je sais qu'il est blessé, mais normalement, quand il est là, c'est le système préférable pour lui, oui, que de l'avoir sur un côté. Moi, comme je dis, j'aime mieux être en 6 devant la défense, mais je pense que Saphir, c'est une position que pour lui va bien aussi, plus près de la défense, et il défend bien, récupère beaucoup de ballons, mais toujours la possibilité de monter pour attaquer. Mais je pense que peu importe le système, là, on est capable de trouver nos repères. Mais c'est sûr que dans les 2 derniers matchs qu'on a joué avec ça, ça a bien été.
Est-ce que pour toi, c'est une formation qu'on peut aussi utiliser sur la route ou pas nécessairement, ou c'est plus une formation qu'on aime utiliser à domicile? Parce que les 2 fois que vous en êtes servi, c'était justement à domicile.
Non, je pense que c'est une formation qu'on peut utiliser à l'extérieur. Après, ça, c'est la décision des entraîneurs, voire tout dépendant de l'adversaire. Je pense que c'est un système qui fait en sorte qu'on est capable de plus contrôler la balle, ce qui est normalement normal quand on est à la maison. On sait bon que quand on va à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué avec les fans, les conditions et tout ça. Mais je pense que c'est un système qu'on peut utiliser n'importe où. Là.
Vous devez être fier au moins de voir que Evan Bush derrière n'est pas obligé de faire multiplier des arrêts à chaque fois. Oui, il y a eu quelques bonnes chances de marquer de l'adversaire, mais on peut pas dire qu'il y a eu vraiment énormément de chances de qualité. Vous avez été capable de limiter ça, surtout avec Rod et Rudy derrière toi. Ça commence vraiment à geler, on dirait. Le dernier match, ça a été leur meilleur ensemble. Ça doit être encourageant.
Ouais, c'est très encourageant. Tu sais, je me souviens, les matchs précédents, on se disait que Evan jouait très, très bien, mais on accordait quand même 3-4 buts, ce qui n'est pas très normal. On a eu beaucoup de blanchissage. Sur nos 5 victoires, on a 4 blanchissages. Comme tu as dit, Rod est en très grande forme depuis le début de l'année. Rudy a retrouvé sa forme. Étant donné qu'il est arrivé, il n'était pas en championnat. Mm-hmm. Donc ça, j'étais pas inquiet pour ça. Non, je pense qu'on est solidement meilleur. On est plus solide, défensivement. Mais je pense qu'il reste encore quelque chose à travailler. Comme tu as dit, on accordait peut-être quelques petites chances, là, surtout en fin de match, qu'on avait l'avance. Je pense que quelque chose qu'il faut faire attention. Là.
Bon, je pense que vous savez tous que ça va prendre la contribution de plus que seulement Nacho en attaque pour gagner des matchs. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour stimuler cette attaque-là? Peut-être sur l'aile droite avec un Raheem qui est très actif, bouge beaucoup. Ça conclut pas nécessairement, mais on voit qu'il y a quelque chose là. Jackson, Silva aussi. Qu'est-ce que vous pouvez développer sur le côté droit du terrain pour essayer d'aller chercher de bonnes chances de marquer de ce bord-là?
Ben moi, depuis mon arrivée à l'Impact, c'est l'équipe a toujours été portée à jouer un peu plus vers la gauche,
ouais.
À cause de Nacho.
C'est sûr.
Mais là, je pense que on a Raheem, comme tu as dit, on a Alejandro qui peut jouer à droite, même Jason s'il est en santé. Je pense que le côté droit, faut essayer de plus l'utiliser. On essaye, mais comme je dis, ça, on dirait que c'est automatique d'aller toujours vers la gauche. Mm-hmm. Mais je pense que c'est vraiment d'aller plus vers la droite, de donner plus de confiance à ce joueur-là. Comme tu as dit, Raheem a très bien fait dans les derniers matchs. Ça ne conclut pas, c'est sûr, bon, on ne va pas se le cacher, il n'y a pas la même qualité que de Nacho, mm-hmm. mais je pense que c'est important de l'utiliser au maximum pour justement le mettre en confiance puis lui prouver qu'on est capable de l'utiliser puis de compter sur lui pour provoquer quelque chose.
Dans cette formation-là, il y a des gars comme toi, comme Nacho, comme Evan, qui ont quand même été très constants cette année. Tranquillement, pas vite, le match des étoiles s'en vient. Est-ce que tu y penses? Parce que à ta position, même si tu ne reçois pas semaine après semaine le crédit de joueur de la semaine ou équipe de la semaine, parce que à ta position spécifique, des fois, pardon, c'est des choses qu'on ne remarque pas nécessairement. Mais est-ce que tu y penses à la possibilité d'aller au match des étoiles représenter l'Impact?
Ben, c'est sûr que ça serait pour moi un honneur, un rêve aussi. C'est quelque chose que je me suis dit que j'aimerais bien. Je ne penserais pas. Moi, j'ai toujours pensé, puis c'est rien pour enlever à la ligue, mais j'ai regardé le scrutin des votes, je pense, puis c'est le trois quarts du monde, c'est des gars d'Atlanta. Ouais. Le match est d'Atlanta, le plus gros fanbase, je pense, dans la ligue. Donc, c'est un peu, je pense pas, c'est toujours les bons joueurs ou les joueurs qui méritent qui y vont. Je veux dire, si je choisis, tant mieux. Je pense que je fais une bonne saison. Oui. Je suis content de mes performances. J'aimerais que ça aille mieux pour l'équipe. Oui. Mais non, c'est sûr que c'est quelque chose que quand tu joues bien, tu y penses. Mais ça m'étonnerait beaucoup, là.
Avec l'arrivée de la mi-saison pour le match de samedi, est-ce que vous regardez ça en vous disant on a tellement laissé partir des points qu'on aurait dû récolter? Ou est-ce que vous dites non, contrairement, on est proche d'une place en série, puis il reste encore une demi-saison à jouer. Comment vous voyez ça?
Mais là, c'est sûr qu'avec le résultat dernier, on est à 4 points d'Orlando d'une place en série. La première chose qu'on se dit, c'est qu'on n'est pas loin, tu sais. Puis une victoire contre eux, ça va nous faire monter au classement, puis nous rapprocher d'une position. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de matchs où on a perdu des points, puis on revient sur des actions. Ça, c'est plus en parlant entre les joueurs, même le staff, si on aurait mis ce but-là. Si je prends par exemple l'action de D'Alejandro, le 2-0 Atlanta, ça change le match. Mm-hmm. Le but contre Chicago, quand on se prend la 89e, ça aurait pu faire en sorte qu'on soit plus haut au classement. Mais il faut regarder vers l'avant. Là, ça ne sert à rien de se plaindre puis de regarder les matchs où on a perdu des points. Là.
Ben, merci beaucoup puis bonne chance en Floride.
Merci beaucoup.
Alors, c'était Samuel Piette, le milieu terrain de l'Impact de Montréal, qui effectuera un autre départ. D'ailleurs, Samuel a été partant pour tous les matchs depuis le début de la saison chez l'Impact. Et comme je le mentionnais avant le début de l'entrevue, il est sur son dernier carton jaune. Lorsqu'il en obtiendra un, il sera suspendu pour un match. Donc, heureusement pour lui, je crois que ça fait déjà 4 matchs consécutifs qu'on attend cela. Et ce n'est pas arrivé. Donc, Samuel joue du soccer très propre depuis quelques matchs comparativement au début de la saison où il avait quand même accumulé certains cartons jaunes. Donc, nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, tel que mentionné tout à l'heure, on va parler un petit peu d'Orlando City SC. On vous rappelle qu'au moment où on se parle, on prévoit commencer le match 20 minutes en retard, étant donné qu'on attend des orages ici dans la région. Il pleut quelque peu sur le Orlando City Stadium au moment où on se parle. Rien de très grave. D'ailleurs, les joueurs sautent sur le terrain pour l'échauffement au moment où on se parle. Donc, petite pause et on vous revient à l'émission d'avant-match du soccer de l'Impact dans quelques instants. Nous voilà de retour à l'émission d'avant-match du soccer de l'Impact de Montréal en direct d'Orlando City. Et comme on vous l'a mentionné tout à l'heure, le match risque de débuter une vingtaine de minutes en retard puisqu'on attend des orages. Là, la pluie a cessé temporairement, Antonio. Normalement, le protocole, c'est quoi au soccer? Si tu peux l'expliquer à nos auditeurs, lorsqu'il y a de la pluie, des orages et tout cela, qu'est-ce qu'on fait?
En fait, quand il y a de la pluie, il n'y en a pas de problème. C'est surtout l'orage qui est l'élément dangereux ici, dans ce cas-ci. En fait, pour le moment, on vient d'en apercevoir quelques-uns qui viennent juste de tomber derrière le stade.
Oui.
Donc, c'est une bonne appel qui a fait une bonne décision par le club de faire ça parce que pour protéger les joueurs. Tu veux pas qu'il y en a un qui tombe, mais même les téléspectateurs, les gens qui sont ici au stade, qui leur arrive de quoi. Donc,
oui.
Le protocole est qu'ils doivent attendre évidemment que ça passe. Et puis, 20 minutes, je pense que ça c'est pas si pire que ça. On peut attendre.
Oui, on va attendre.
Pour la santé de tout le monde.
En fait, même la semaine dernière, au au Stade Saputo. On a failli en avoir une. Finalement, il n'y a pas eu d'éclair, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, Orlando City, c'est une équipe qui, cette année, a des difficultés. Là, on a perdu Kaká et il a pris sa retraite, bien sûr. On s'est tourné vers d'autres options. On a amené Sacha Kljestan du Red Bull de New York, qui est quand même un gros nom dans la MLS. On a aussi fait l'acquisition de Dom Dwyer. Dwyer a 7 buts depuis le début de la saison. C'est pas fracassant, il y a aucune passe décisive pour Dom Dwyer, mais c'est quand même un attaquant extrêmement dangereux. Il s'est créé plusieurs chances la semaine dernière au Stade Saputo, sans vraiment être capable de concrétiser. Maintenant, suite à la dernière défaite au Stade Saputo, ils ont congédié leur entraîneur et c'est maintenant l'entraîneur substitut qui est là pour le match de ce soir en attendant Bobby Murphy. Et Bobby Murphy, ce qu'il a fait mercredi soir, parce que il faut rappeler aux gens qui nous écoutent qu'Orlando a joué dans la US Open Cup. La US Open Cup, c'est un peu l'équivalent du championnat canadien au Canada. C'est par la US Open Cup qu'on tente de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, ils ont joué en milieu de semaine et ça, ils ont joué 120 minutes, Antonio, parce que le match était à égalité 1-1 et on s'est rendu jusqu'à la fusillade. Donc, on a joué plusieurs minutes. Il y a peut-être des joueurs qui auront une certaine fatigue. La bonne nouvelle, c'est que Dom Dwyer n'a pas été utilisé dans ce match-là. Donc, lui, il est frais pour le match d'aujourd'hui. Mais assez particulier de voir la formation partante qu'on a complètement revampée. C'est un 3-4-3 qu'on utilise. Une formation qu'on voit quand même un peu plus rarement dans la MLS, il faut le mentionner. Qu'est-ce que ça dit, toi, un 3-4-3?
Ça dit que ça va être une équipe qui va jouer vraiment vers l'avant. Ça va être une équipe qui va être très offensive avec trois attaquants, en fait. Quatre milieux derrière pour faire la couverture. J'imagine que les quatre milieux vont faire le va-et-vient de montée et descente.
Oui.
Pour supporter un peu la défensive, qui sont que trois. Donc, ça va être vraiment un jeu. Normalement, ce jeu-ci se fait quand une équipe est en train de perdre. On décide de prendre un défenseur, de le monter comme milieu, puis de pousser tout le monde vers l'avant pour aller chercher des buts. Donc, faudrait faire attention du côté de l'Impact de Montréal. Par contre, ce qui joue pour l'Impact de Montréal en ce moment, ou ce qui va jouer tantôt à leur faveur, ça va être que plus que le match va avancer, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup de minutes, pas autant de repos, exact, que l'équipe de l'Impact de Montréal. Donc, ça pourrait être un avantage pour eux. Donc, il faut qu'ils commencent le match très solidement défensivement à l'Impact de Montréal. Puis, je pense qu'au fur et à mesure que le match va avancer, les joueurs vont commencer à sentir un peu de fatigue, etc. Et espérons que l'Impact va profiter de cet avantage.
En tout cas, clairement, du côté d'Orlando, il y avait une philosophie différente entre l'entraîneur et l'assistant-entraîneur parce que dès le congédiement, on voit un changement radical dans le schéma tactique. Donc, clairement, lui ne voyait pas les choses de la même façon. Là, on parle ici de Bobby Murphy. Et maintenant, ben, du côté de l'Impact, on peut pas nécessairement se fier non plus à ce qu'on a vu à Montréal il y a 10 jours parce que c'est complètement différent comme formation. Tu parlais tout à l'heure des milieux qui vont monter et descendre. Donny Toya, l'ancien de l'Impact, est dans l'alignement partant pour l'Orlando City SC et il joue comme milieu sur l'aile gauche.
Le flanc.
Exactement. Donc normalement, il joue comme défenseur et c'est un gars qui, ouais, Donny Toya qui monte et descend le couloir. On l'a vu souvent avec l'Impact, on l'avait perdu lors du repêchage d'expansion, mais là il joue comme milieu à la même position sensiblement. Il va jouer un peu le même genre de travail et bien sûr à surveiller Dom Dwyer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est en pointe pour Orlando City, qu'il va falloir surveiller parce que c'est un excellent joueur, ça c'est certain. Du côté de l'Impact de Montréal, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, là on revient avec le 4-3-3 étant donné que le 4-2-3-1 devenait un peu impossible avec Jason Vargas qui malheureusement lui s'est blessé lors du dernier match. On sait pas pendant combien de temps il en aura. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des retours chez l'Impact. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Michael Petrasso, il est sur le banc, il revient. Victor Cabrera. Et une autre bonne nouvelle cette semaine à l'entraînement, c'est que Kyle Fisher a recommencé à s'entraîner avec ses coéquipiers. Pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas de Kyle Fisher, c'est un jeune défenseur central qui a été repêché par l'Impact de Montréal, qui a connu quand même une saison intéressante l'année dernière. On parle d'un grand gaillard qui joue très physique. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il s'est blessé au tibia. Il a été opéré au mois de janvier. Ça aussi, ça va devenir une option intéressante pour Rémi Garde lorsqu'il sera de retour dans la formation. C'est peut-être pour ça aussi qu'on commence à parler de la possibilité d'échanger Victor Cabrera. Parce que si Fisher revient, et Fisher il est sur le banc, il peut prendre la place de Fanny, il peut prendre la place de Camacho, et on sait que Raitala peut boucher un trou si on est mal pris. C'est peut-être là que Victor Cabrera devient un joueur que peut-être on cherche à le bouger là, cet été. Là.
Oui, puis en même temps aussi, il faut voir, parce que des fois, tu peux avoir deux joueurs sur un poste, parce qu'il y a un joueur qui a un salaire de débutant, mais qui est capable de faire la même livraison de marchandises lors d'un match qu'un joueur qui fait probablement quatre fois son salaire. Donc, c'est aussi de maximiser non seulement le talent sur le terrain, mais aussi les sous.
Les dollars investis.
Les dollars, c'est important, et l'impact de Montréal a dépensé pour la sixième masse salariale en MLS, et ils sont pas classés dans les premiers. Donc, c'est sûr que ça va être quelque chose à calculer, à bien prendre des bonnes décisions.
C'est 220 000, je crois, le salaire de Victor Cabrera. C'est facilement de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs, là. Ça, c'est certain.
Oui, puis quand t'as un jeune joueur qui est capable de performer, là, c'est sûr qu'il est blessé, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus, mais qui est capable de donner une très bonne performance, on a besoin de joueurs physiques.
Et c'est vrai.
La position requise pour ce jeu-là, c'est bien sûr la défensive. On parle aussi des fois par le milieu, mais avec Piet, je pense qu'il fait un très bon travail à ce niveau-là de physique. Mais oui, ça peut être un bon retour pour l'Impact de Montréal, surtout qu'on arrive en plein milieu de saison, donc c'est positif.
Oui, et moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est que on voit, puis moi, ça, je l'ai souvent dit, j'ai toujours trouvé que du côté de l'Impact, c'est une des équipes les plus petites de la MLS, donc c'est difficile de rivaliser sur des ballons aériens, sur des corners et tout cela. On voit que depuis que Fanny et Camacho ont pris leur place dans l'alignement partant, on fait mieux à ce niveau-là. On parle de deux joueurs qui sont grands, et Carl Fisher, c'est un grand joueur qui peut gagner ce type de bataille-là. C'est plus compliqué pour Victor Cabrera, donc à ce niveau-là, au moins, on va chercher une plus grande cible là, qui peut venir défendre. Fisher n'a pas vraiment l'habitude de se porter en attaque dans la surface de réparation adverse. Quoiqu'il est très jeune, peut-être qu'on peut lui apprendre comment le faire. Là. Il sort des universités, bien sûr, et tout cela. Mais peut-être que c'est un gars qui, éventuellement, va pouvoir contribuer à ce niveau-là aussi. Mais juste d'avoir une plus grande cible, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je me souviens qu'Evan Bush, vous savez, il y a des difficultés sur ses dégagements, des fois, à trouver des coéquipiers. Et il me disait l'autre jour, il me dit, tu sais, quand Didier était là, je visais Didier sur mes dégagements. Puis Didier gagnait les duels, touchait le ballon de la tête, il poussait le ballon vers l'avant. Et...
Mais là, il y en a plus. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer vraiment le reste des joueurs à Drogba, mais c'est sûr que Didier, c'était tout un joueur. En fait, il était vraiment exceptionnel, autant ballon dans les airs, au sol, dans les courses, malgré son âge aussi.
Oui,
oui, il savait. Souvent, tu pouvais le voir sur le terrain, dès que le ballon arrivait proche de lui, il allait juste tasser avec son bras un peu l'adversaire pour permettre d'avoir un contrôle seul, sans se faire déranger. Donc oui, il allait maximiser toutes ces petites sorties du gardien à l'avant. Donc il allait un peu le sauver, un peu sa peau pour le faire bien paraître aussi, parce que c'est sûr, c'est pas évident de trouver un terrain quand t'es trouver un joueur sur le terrain avec une relance au pied. C'est pas toujours facile.
Ken Kralicki obtient un autre départ dans l'alignement partant de l'Impact de Montréal ce soir. Antonio, on parle ici d'un jeune homme qui a été repêché au troisième tour du Super Draft cette année. Normalement, ce type de joueur-là, souvent, va se retrouver soit en prêt ou même avec l'équipe réserve si jamais le club en a une. Ken Kralicki a obtenu énormément de départs. C'est un jeune homme qui travaille très, très, très fort. Bon, un niveau de talent peut-être un peu limité. L'expérience aussi, il en a besoin de beaucoup. Mais pourquoi, selon toi, l'entraîneur Rémi Garde lui fait-il autant confiance? Est-ce que c'est juste parce que il sait qu'il peut se fier sur son niveau d'effort? Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, écoute, c'est sûr que quand tu es un jeune joueur et que tu arrives en MLS, tu veux avoir un entraîneur qui donne une vraie chance aux joueurs qui viennent d'arriver.
Pour ça, il y en a une.
Donc, c'est important que les joueurs qui sont jeunes qui arrivent, et que si Rémi voit de quoi en lui qu'il peut être bon pour son équipe, bon pour son système, s'il voit que c'est un garçon qui fait ce qu'on lui demande, qui est sur le terrain puis donne son 200%, en fait.
Ah, ben ça, il donne.
Des fois, tu peux avoir un joueur sur le terrain qui est super talentueux, mais qui va pas porter, qui va pas donner autant d'énergie qu'un joueur qui est peut-être moins talentueux, mais lui va t'en donner pour ton argent. Donc, c'est ça aussi. Et en même temps, vu qu'il est jeune, il y a beaucoup de choses à apprendre. Le talent, c'est sûr que c'est pas mal inné, mais ça se travaille aussi. Donc, je crois qu'un entraîneur comme Rémi qui donne qui donne toute la confiance comme ça à un joueur. Pour lui, c'est bon et c'est sûr qu'il va vouloir profiter de cette opportunité-là qui est donnée à lui. Et il va essayer probablement de la maximiser parce que match après match, il démarre.
Il est là.
Il démarre. Il joue. Il est entouré de très bons joueurs, des joueurs qui sont capables de lui donner des bonnes solutions. Donc tout ça, c'est bon pour lui. Et espérons que Rémi aussi reste encore pour plusieurs années chez nous pour qu'il puisse vraiment établir ce qu'il veut établir chez nous.
Oui, ça c'est certain. En tout cas, pendant ce temps-là, il y a des joueurs quand même comme Raheem Edwards qui sont sur le banc. On connaît Raheem, niveau de talent quand même supérieur à celui de Crawley Key. Ça aboutit pas toujours nécessairement comme on voudrait, mais bon, joueur complètement différent. Et pour le match aujourd'hui, il va débuter sur le banc. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite les joueurs qui sont sur le banc pour l'Impact de Montréal. Clément Diop, le gardien substitut. Chris Duval et Michael Petrasso, deux défenseurs latéraux droitiers qui sont sur le banc. Victor Cabrera aussi sur le banc. Le jeune Shamid Chaume, ce jeune projet canadien dont on disait beaucoup de bien et qui a pas beaucoup de temps de jeu, mais il est là sur le banc. Raheem Edwards, je viens de le mentionner, et Anthony Jackson-Amel, étant donné que c'est Matteo Mancosu qui va débuter en pointe là, pour l'Impact de Montréal. On fait une autre petite pause et on devrait avoir la chance de s'entretenir quelques instants avec Jacques Thériault, qui lui sera à la boxe ce soir, bien sûr, pour Stephen Butler, qui va effectuer son prochain combat ce soir contre Carson Jones. Donc, petite pause et on s'entretient avec Jacques Thériault tout de suite après. On vous rappelle que nous sommes toujours en direct d'Orlando et que le match de ce soir entre l'Impact et le Orlando City SC va débuter avec quelques minutes de retard étant donné la météo. Ici, on attend des orages et des éclairs, mais tranquillement, pas vite, là, ça semble vouloir s'éclaircir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc normalement, le match va débuter dans une vingtaine de minutes. En attendant, on va aller jaser avec Jacques Thériault qui sera à la description du gala de boxe de Eye of the Tiger Management ce soir du côté du Casino de Montréal. Salut Jacques!
Salut messieurs. D'abord, je veux saluer Antonio, si tu permets, Jérémy, Antonio Ribeiro. Je suis très content de l'entendre. Antonio, tu te souviens, c'était un de mes joueurs favoris. Je disais toujours, lorsqu'il entrait dans le match, Antonio va mettre le feu sur le terrain, ce qu'il faisait généralement.
Oui.
Et il donnait toujours un très bon spectacle. Alors, salut mon vieux Antonio. Je suis très content de t'entendre.
Ben merci beaucoup. C'est des très belles paroles. Je le prends. Merci.
Jacques, ce soir, au Casino de Montréal, Stephen Butler va effectuer son prochain combat. Bien sûr, il affrontera Carson Jones. On dirait qu'on dit à chaque fois dans le cas de Stephen Butler que ce combat, c'est le combat le plus difficile de sa carrière. C'est son plus gros défi. Est-ce que tu es d'accord avec cette déclaration-là?
Ben en fait, au niveau où est rendu Stephen Butler, chaque combat prend une importance capitale, une importance particulière parce que dans sa marche vers les top 10 mondiaux, il ne peut pas se permettre d'échapper des combats, d'autant qu'il affronte des adversaires de meilleure qualité. Dans le cas de Carson Jones, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, 40 victoires, 13 défaites, 3 combats nuls. Donc, il en sera à son 47e combat.
Wow.
Ce soir, il a 30 victoires par KO. C'est un gars qui a affronté de bons boxeurs, Cal Brooks, contre qui il a perdu, dont une fois par décision. Il a perdu une décision technique contre Antonio Margarito, qui, on s'entend, là, c'est plus un jeune poulain du printemps, là, mais, mais Margarito, toujours un boxeur dangereux, et à mon avis, parce que j'ai regardé le combat cet après-midi, il s'est fait voler par les juges. Il aurait dû, en tout cas, ça aurait dû être au moins un combat nul là, après 6 rounds, parce que le combat a été interrompu au 7e round en raison d'une blessure sur coup de tête accidentelle. C'est un gars qui est compact, c'est un gars qui me semble être extrêmement, physiquement très fort, un petit bulldog. Qui lance des bons coups, qui a une bonne position, qui est capable d'attaquer au corps et qui, mais contre Margarito, en tout cas, avait tendance à prendre des coups pas mal. Alors, Stephen Butler peut pas prendre ce combat-là à la légère. Je pense pas qu'il va le faire de toute façon. Mais ça va être un bon test pour Stephen Butler, qui est toujours en reconstruction après sa défaite contre Brandon Cook. Là, on se souviendra au Centre Bell où ça s'était mal terminé.
Oui.
Mais là, selon son entraîneur, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, il prend de plus en plus de maturité. Je pense qu'il a fait... il a pas eu le choix, là. Il a fait du ménage dans son entourage.
Oui.
Et ce soir, ça va être extrêmement important pour lui, la maturité, parce que Cook, avec son expérience, va lui présenter probablement des choses qu'il n'a jamais vues encore dans le ring, ou une attitude qu'il n'a jamais vue, une résilience qu'il n'a jamais vue. Alors, ça va être extrêmement intéressant pour Butler, justement, de voir où il en est dans cette maturité-là. dans ce mûrissement comme boxeur et comme personnalité là, ce soir contre Carson Jones.
Est-ce que nous avons des détails sur la suite des choses pour Stephen Butler, étant donné que je crois qu'il doit passer devant les juges au mois de septembre? Certains disaient qu'il pourrait perdre sa licence de boxeur temporairement.
On verra. Là, non, j'ai pas de détails là-dessus, mais... encore faut-il qu'il soit reconnu coupable de quelque chose. On vit dans un système de présomption d'innocence. Tant qu'il n'est pas reconnu coupable de quoi que ce soit, moi, je ne vois pas pourquoi il perdrait sa licence. On verra, même s'il y a de sérieuses accusations déposées, on n'en est pas là, je pense pas, à ce moment-là. Fait que, de toute façon, après le gala de ce soir, c'est la pause estivale pour Eye of the Tiger Management. Et j'ai l'impression qu'on va beaucoup travailler du côté de Camille et Stéphane avec Stephen Butler. Stephen Butler, là, c'est très important pour Camille et Stéphane. C'est un peu comme... Il y a comme un peu une figure paternelle par rapport à Stephen Butler. Et moi, je pense qu'il prend de plus d'ascendant sur lui. Et puis, depuis qu'il a Jean-François Boisvert dans son coin, son entraîneur, Rénal Boisvert, a demandé à Jean-François de venir travailler avec lui. Et c'est ce qu'il me disait cette semaine. J'ai jasé avec à la conférence de presse. Mm-hmm. Et ce qu'il me disait, c'est que Jean-François... l'amène à être meilleur en défensive, d'être plus opportuniste et d'être plus mature également, pas seulement dans la vie, mais dans le ring également.
OK, exactement. Et donc, ce soir, vous allez aussi présenter le combat de Mathieu Germain, c'est bien ça?
Oui, bien là, on verra, là, parce que là, vous autres, vous êtes en retard. Nous autres, vous êtes la locomotive. Nous autres, on est à Cabouche, pas mal, là. Fait que si vous n'arrivez pas à gare à l'heure, nous autres, on va faire ce qu'on peut. Mais en principe, on devrait présenter Mathieu Germain également. Puis moi, là, c'est un petit gars que j'adore, Mathieu Germain. Je parlais aussi avec Mike Moffa cette semaine. Il me fait penser un peu à Éric Lucas. C'est pas le gars le plus talentueux, mais c'est un gars qui travaille fort. C'est un gars qui fait ce qu'on lui dit de faire. C'est un gars qui a une belle discipline de vie. C'est un gars qui aurait pu mal tourner, puis il est sur le droit chemin maintenant. Puis un peu comme Eric, c'est un gars qui travaille dans le ring et qui apprend. Et c'est un gars qui, lorsqu'il monte sur le ring, c'est pas un gars qui a beaucoup de puissance, mais là, une intelligence et une compréhension de ce qu'il a devant lui. Et ça, c'est pas donné à tous les boxeurs d'avoir ça, l'intelligence du ring. Être capable de s'adapter à des situations. C'est ce qu'Éric Lucas, c'est ce qu'a fait en partie qu'Éric Lucas est devenu champion du monde, c'est que était capable de reconnaître rapidement dans un combat les forces de l'adversaire, ce sur quoi il devait travailler, suivre les instructions de son coin. Et Mathieu Germain, c'est un gars comme ça. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup le voir boxer parce qu'en plus, il est intense. Il est intense du début à la fin de chaque round. C'est pas un gars qui triche dans le ring. C'est pas un gars qui va à l'économie. Et c'est toujours extrêmement, extrêmement intéressant de voir boxer.
Excellent. Merci beaucoup, Jacques. Et on se retrouve dans les alentours de 22h pour ce gala de boxe ce soir au Casino de Montréal. Merci beaucoup, Jacques.
Ben,
à plus tard.
Salut les gars, puis allez l'Impact.
OK. Merci beaucoup. Salut. Antonio, on va revenir un petit peu à nos moineaux ici, puis peut-être une petite discussion sur la Coupe du Monde. Cette semaine, on a vu l'Argentine qui s'est inclinée 3-0 face à la Croatie et on dirait qu'on a le jour et la nuit entre Cristiano Ronaldo et ses succès. 4 buts jusqu'à maintenant. Enfin, il a marqué les 4 buts pour le Portugal depuis le début du tournoi. Lionel Messi, beaucoup plus difficile. Il a raté, entre autres, un penalty aussi et l'Argentine est sur le bord de l'élimination. Là, on peut le dire comme cela. Qu'est-ce que tu as remarqué de ces deux grands joueurs depuis le début de cette Coupe du Monde et qu'est-ce que tu peux nous en dire?
En fait, je suis très heureux pour Ronaldo. Je crois que c'est un joueur qui est dévoué, c'est un joueur qui travaille très fort pour son succès. Donc, bravo à lui de réussir avec le Portugal. Dans le passé, on disait souvent qu'il y avait du succès avec le Real Madrid, mais pas avec l'équipe nationale. Donc, ils sont allés gagner la Coupe d'Europe en 2016. Donc, une Coupe du Monde qui devient très intéressante pour Ronaldo. Espérons que ça va continuer comme ça. C'est un leader. Puis non seulement il a fait 4 buts jusqu'à présent, mais il a fait quand même 3 buts contre une des meilleures équipes qui est l'Espagne. Donc oui, c'est beau à voir d'après moi. Et puis j'en suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi. Par contre, pour Messi, Messi-Ronaldo, c'est deux joueurs prodiges. C'est deux joueurs vraiment au-dessus de la moyenne dans le soccer mondial. Par contre, Messi, beaucoup de difficultés avec l'Argentine. La raison, on le sait pas. Est-ce que c'est dans le vestiaire? Est-ce que c'est entre les joueurs? Est-ce que c'est le coach? Mais on sait que qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis en ce moment, ben, il joue pas à la hauteur du Messi que tout le monde s'attend qu'il joue. Il est bien entouré dans son équipe. C'est juste une situation un peu incompréhensive quand on observe l'équipe et qu'on se dise waouh, la plupart des joueurs jouent dans des gros clubs et ils n'arrivent pas à livrer la marchandise. Ils jouent contre une équipe à Croatie qui a fait une grosse surprise. Personne ne s'attendait à ça. Mais c'est des petites erreurs à ce niveau-là. Quand on fait des petites erreurs, autant gardien, défenseur, peu importe, tu payes le prix.
Le premier but, là, ça
on ne pardonne pas.
Non, ça pardonne pas, mais l'Argentine, normalement, aurait dû être capable de revenir et jouer au score parce que ça s'est passé tellement tôt dans le match. On aurait dû normalement être capable de revenir. Ça n'a pas été le cas. On en parlait un peu en début de reportage. Là, ici, on vit au rythme du Orlando City FC. Mais dans tous les petits bars, toutes les petites rues, on voit des écrans avec les matchs de la Coupe du Monde. On a eu la chance de voir la Belgique ce matin qui a gagné 5-2 contre la Tunisie. Le Mexique qui a doublé la République de Corée 2-1. Et l'Allemagne qui, avec un but dans les arrêts de jeu, cet après-midi, est allé voler ce match à la Suède, là, 2-1.
Et attention, et un joueur en moins.
Exactement, t'as raison de le mentionner.
Sont revenus.
Donc, ils avaient un carton rouge contre eux, et ce coup franc dans les dernières minutes du jeu a scellé l'issue de ce match et dire, bon, disons que l'Allemagne avait absolument besoin de cette victoire, sans quoi eux aussi là, auraient pu être dans une situation grave, auraient pu peut-être rater la ronde éliminatoire, là, sait-on jamais. Donc, on verra ce qui va se passer, bien sûr. Il y a d'autres matchs qui s'en viennent demain. Il y a d'autres matchs aussi dans la MLS. Demain, juste pour le mentionner, à la Coupe du Monde, il y a l'Angleterre contre le Panama. Ça, c'est en début de journée, vers 8h. Le Japon contre le Sénégal, ça, c'est à 11h. Et la Pologne contre la Colombie, ça, c'est à 14h. Et aussi, en MLS, il y a d'autres matchs ce soir qu'on va pouvoir suivre pour vous. D'ailleurs, on va essayer de vous donner quelques résultats parce qu'il y avait des matchs en fin d'après-midi du côté de la MLS, notamment là le match de Philadelphie qu'on suit de très près. Philadelphie qui joue contre les Whitecaps de Vancouver. J'essaie de trouver le score ici. Je crois que c'est 4-0 Philadelphie. Et c'est terminé, soit dit en passant. Oui. Donc Philadelphie là qui passe devant et qui donc ce sera une équipe que l'Impact va vouloir rattraper. Donc Philadelphie, avec cette victoire, devient l'équipe qui a le dernier rang, donnant accès aux séries éliminatoires. Donc il se retrouve maintenant à 21 points. Donc ce n'est plus vrai de dire que si l'Impact gagne aujourd'hui, ils seront à un point des séries, étant donné que cette victoire de Philadelphie 4-0 aujourd'hui contre Vancouver. D'ailleurs, l'Impact va jouer contre Vancouver un peu plus tard au mois de juillet dans le fameux championnat canadien. Il y a aussi les Red Bulls qui mènent 3-0 face à Dallas au moment où on se parle. Les Red Bulls sont devant l'Impact, devant Orlando aussi, donc ça change pas grand-chose au niveau du classement. Il y aura Sporting Kansas City à Houston à 20h30. Il y aura aussi les Rapids du Colorado au Minnesota, ça c'est à 21h. Real Salt Lake à San Jose à 22h. Seattle est à Chicago. Ça aussi, on va suivre ça pour vous ce soir dès 22h. Et Los Angeles, LAFC qui visite, qui est à domicile contre le Crew. Ça, c'est à 22h30. Ce qu'on va faire, Antonio, on va faire une dernière petite pause. Normalement, le match devrait débuter dans une douzaine de minutes approximativement. Donc, petite pause, les alignements partant et on l'espère, bien sûr, le coup d'envoi pour ce match de soccer entre l'Impact de Montréal et le Orlando City SC.